Bonjour. J'ai un peu de retard dans les chroniques parce que nous sommes en pleine campagne américaine qui se termine dans moins d'un mois. Les Américains votent le 8 novembre et c'est intéressant parce que il y a comme une sorte de coïncidence. La France a lancé hier le processus électoral avec la primaire républicaine. Je n'ai pas vraiment suivi tout le débat parce que j'ai été informée tardivement. Enfin, c'est de ma faute. J'ai pas regardé mon email à temps. Et j'ai suivi quand même la fin du débat. En suivant la fin du débat, c'était assez. Ça faisait une image un peu bizarre parce que lorsque. La France veut imiter l'Amérique, c'est toujours un peu comme si elle singeait un peu les choses. Il y avait cette candidat-là, je ne sais plus qui était là, comment on peut le qualifier, qui a gagné, qui n'a pas gagné, c'est pas tellement le sujet. Mais moi, ce qui m'a inquiété quand même, ou plutôt qui a interpellé mon attention par la suite, c'est qu'il semblerait que tous les Français pourront voter à la primaire républicaine. Là, quand même, c'est assez gros, ça me gêne, parce qu'aux États-Unis, on a vu ce que tout cela a donné. À chaque fois qu'on ouvre les primaires comme ça à l'autre parti, les gens de ce parti opposé viennent pour voter, non pas le meilleur, c'est-à-dire on ne va pas voter celui qui peut battre son candidat à soi, on va voter... Le plus mauvais parce qu'on est sûr que par élimination il serait éliminé par son candidat. Donc les gens à la gauche, si on leur ouvre cette primaire, la primaire sera faussée parce qu'ils vont voter pour celui qui peut être battu par Hollande ou par Montebourg ou par Macron ou par je sais plus les autres candidats. Bon voilà. Je crois que c'est faux cette histoire-là, c'est pas une bonne histoire. Et puis il y a ce malaise qui trône, qui fait que bon, Alain Juppé il est quelque part soutenu par les médias qui sont forcément, et ça c'est devenu une constance, on l'a vu aux États-Unis, c'est une horreur. Ils sont tenus par la question de l'homosexualité qui les tiraille, qui les mène, qui les guide. Et comme Alain Juppé est plutôt pro-homosexualité, pro-gay, les médias le soutiennent par rapport à cela. Donc voilà, on va voter par nos partis intimes et on ne votera pas vraiment avec notre cerveau. Donc c'est très embêtant parce que la primaire, ce n'est pas l'élection présidentielle, c'est un camp qui choisit d'abord son champion, il faut d'abord se fédérer avant d'aller rencontrer les Français. L'idée qu'on fasse de la primaire un référendum avant l'heure, quelque part c'est gênant, d'autant que, on a vu la triche aux États-Unis, le pays qui a inventé la démocratie, mon Dieu, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu comme tricherie? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de tricherie de la part de la candidature d'Hillary Clinton, qui est quand même là, qui survit, parce que tous les médias sont de son côté, et ça pose la question de savoir si vraiment les médias sont encore qualifiés pour modérer un débat. Moi, je crois que non. Il va falloir intégrer le fait que les médias sont socialistes, ou alors démocrates, comme on dit, les partis, hein, et qu'ils sont de parti pris, ils sont biaisés, et ils ont depuis longtemps... franchi le Rubicon en matière de respect des normes déontologiques et des règles de la presse, la presse n'étant plus libre ni indépendante parce que détenue par ceux-là même qui soutiennent les candidats présidentiels, la presse n'a pas vocation à animer les débats. Et d'ailleurs, je ne veux pas... j'ai déjà énervé tout le monde et donc je m'en fous un peu. L'essentiel est que je dise des choses que vous pouvez vérifier. Je ne crois même pas à la compétence de ces journalistes pour modérer ces débats parce qu'on en ressort avec des poncifs. Et hier soir, on a très bien vu tous les poncifs qui sont ressortis. Hein. Des questions banales, êtes-vous pour l'immigration, pour qu'elle baisse, pour qu'on... Bon, voilà, c'est toujours pareil. C'est soit tout le monde va dire je suis contre Le Pen et puis on va broder là autour avec des variables. C'est vrai qu'il était intéressant que M. Juppé et Bruno Le Maire rappellent que ce n'est pas le regroupement familial qui apporte plus d'immigration, mais c'est vraiment la clandestinité pure et le droit d'asile via le droit d'asile. Et que si on ne fait pas déjà respecter les règles, on ne peut pas avancer comme cela. Quand quelqu'un est débouté du droit d'asile, il doit pouvoir repartir et que ce n'est pas aussi simple. Bon, on a des choses qui sont arrivées, mais moi, la question de l'immigration reste toujours d'une grande hypocrisie parce qu'on va parler de tout sauf de l'histoire. C'est quoi? Les immigrés ne sont pas ici par hasard. S'ils sont ici, c'est parce qu'il y a une histoire entre la France et l'Afrique. Et cette histoire-là, elle commence, enfin, elle s'accélère avec le général de Gaulle lorsqu'il arrive et qu'il crée en Afrique équatoriale française et à laquelle, bon, le Cameroun était accolé. Et il faut savoir que la résistance française a commencé en Afrique avec De Gaulle avant d'arriver en France. Alors, c'est l'auteur La France libre fut africaine, Eric Jennings, un Canadien, Afro-Canadien, francophone, américain, triple nationalité, qui le dit très bien. On fait toujours comme si la France était devenue, comme ça, après les Africains étaient venus aider la France, mais la résistance française a commencé en Afrique et les Africains sont morts beaucoup plus encore que les Français en allant, en remontant justement vers la Libye, etc., sur les batailles qui sont bien décrites dans ce livre-là. Donc, quand on parle de l'immigration et qu'on oublie l'histoire et qu'à côté de cela, on nous dise que nos ancêtres sont les Gaulois, bon, c'est bien, mais c'est un peu court parce que derrière, il y a la question de la discrimination, la question de l'immigration qui arrive. Et voilà, comment on fait pour que les rapports entre la France et l'Afrique soient vraiment équitables, qu'on sorte de la colonisation pour une coopération. Ils avaient un slogan qui était intéressant, qu'on appelait le co-développement. Là, ça reste ouvert. Bon, pour finir, quand même, je vais dire vite fait, parce qu'on est sur Radio Silence, que, il y a un scandale aux États-Unis en ce moment. Le directeur de campagne d'Hillary Clinton, M. Podesta, aurait fomenté, parce que c'est WikiLeaks qui le dit très clairement, a fomenté une rébellion contre l'Église catholique. Il voulait faire exploser l'Église catholique, plutôt imploser de l'intérieur. C'est depuis 2005, ces histoires-là, c'est vieux comme tout. Il a créé deux grosses think tank, comme on dit, des associations comme ça, non-profit, ils disent qu'ils devaient porter ce projet-là. Le projet n'a pas abouti, heureusement, mais on voit très bien que tout cela a été préparé avant même que le mariage gay ne soit adopté, comme si, il fallait déjà casser l'Église catholique qui est contre l'homosexualité, qui est contre l'avortement. Et qui est contre tout ce qu'on présente comme le progrès, alors que, je veux dire, cette manière, cette sauvagerie de l'usage de l'argent qui a complètement dévoyé tous les rapports sociaux et tous les équilibres sociétaux. Donc, il fallait casser ce temple-là avant d'amorcer la question du mariage. Qu'est-ce qu'on va nous proposer par la suite? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le nouvel homme que ce système envisage de nous proposer à la place de la civilisation judéo-chrétienne, comme on dit. Quand on casse les racines de la chrétienté en Europe, ça, on n'en a pas parlé hier, ça, c'est les choses importantes. Donc, on tourne le sujet en parlant de laïcité et puis on parle du burkini. Pardon, le burkini lié à la Constitution. Mais non, c'est la liberté du corps. Bon, j'en sais rien. C'est des débats qui méritent que des êtres compétents à la réflexion, c'est-à-dire des chercheurs, des enseignants, pourquoi pas les gens à l'Académie française, la société civile, viennent poser des questions, mais pas les journalistes parce qu'ils n'ont pas la qualité pour le faire, ils n'ont même pas la volonté pour ceux qui ont la qualité, et ça complique tout le propos. Je vais quand même finir par ce que M. Hollande a dit, il a écrit un livre, j'ai vu ça à la télé vite fait, et j'ai été frappé par la phrase qui dit que les gars à la cité n'ont pas le sens de l'attachement, parce qu'ils n'ont pas des valeurs et ils n'ont pas de référence. Franchement, j'ai envie de dire que Hollande, il me surprend là. Je ne vais pas finir par l'aimer quand même. Oui, ça c'est des phrases profondes qu'on a envie d'entendre. L'attachement à un pays, le fait de ne pas avoir de valeurs parce que dans la famille on ne les a pas inculquées, et le fait de ne pas avoir de références parce qu'on n'a pas été à l'école, ça c'est des débats importants. Mais il faut aussi dire que les valeurs et les références, ou peut-être pas les références parce que là c'est vraiment la question là, de l'école, les valeurs et l'attachement à un pays viennent aussi du respect des principes républicains qui ne sont pas appliqués aujourd'hui. C'est quoi la République? Alors, on peut faire des grands débats sur la laïcité, on peut faire des grands débats sur le Burkini, sur l'immigration, mais tout cela, c'est un peu de la périphérie. J'ai envie de dire, c'est les conséquences. Pourquoi on ne parle pas des vrais problèmes sur l'exclusion, sur la discrimination, sur l'exemplarité de la gouvernance, sur la séparation des pouvoirs, sur la place de la presse aujourd'hui qui a complètement, qui s'est, comment je vais dire, désaxé de son, j'ai oublié comment on va dire ça, de son centre. Bon, ces choses-là, ça fait plus de mal qu'autre chose. Et bien sûr, on ne va pas parler, on ne va pas l'oublier, tout le vampirisme technologique qui fait que on n'a plus de vie, on est surveillé, système de surveillance globale, quand ce n'est pas par le sol, c'est par les drones qui sont en l'air, c'est par les satellites, et ces satellites-là finissent, et les espions, et les publicités, et les magasins, et les vidéos urbaines, tout ce monde-là se fédère pour finalement créer un système de contrôle global qui étouffe les gens et qui fait que certains, l'argent circule entre eux, les autres ne voient rien arriver, et à la fin, ils sont obligés de se débrouiller comme ils peuvent, et merde les valeurs, et merde les références, et merde l'attachement à un pays qui ne vous reconnaît pas de place et qui ne vous en donne pas, au contraire, vous avez tous ceux qui sont là, cette élite, l'establishment qui est vorace, cupide, qui ne s'est jamais rassasié de rien, ni de sexe, ni d'alcool, ni de drogue, ni d'argent, ni de pouvoir, ni de poste, ni de rien. Oh, bon, je ne vais pas vous, vous assommer. Je vous dis, portez-vous bien et à bientôt.
Il m'a dit.